Jesus Christus.
Notre-Dame de Guadalupe, objet de dévotion au Mexique puis surtout le continent américain. François, pape argentin, la célèbre ce soir à Saint-Pierre. Dimanche, la piété populaire sera à nouveau à son agenda en Corse. Nous verrons pourquoi François la qualifie de système immunitaire de l'Église. Dans son message pour la prochaine Journée mondiale de la paix, le souverain pontife plaide pour l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Les détails de ces messages, de ce message dévoilé ce jeudi à suivre. La paix, elle, semble loin à Gaza. 12 agents chargés de sécuriser des camions d'aide humanitaire ont été tués dans des frappes israéliennes ce jeudi. Et puis, réunis à Varsovie, les dirigeants français et polonais mettent en garde contre toute forme de concession aux dépens de Kiev. La possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine a également été abordée.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. Ce 12 décembre, l'Église universelle fait mémoire de Notre-Dame de Guadalupe, patronne de l'Amérique latine. Vous l'entendez, une messe à son honneur est en train d'être célébrée en ce moment même en la basilique Saint-Pierre, présidée comme chaque année par le pape François. Le Saint-Père qui s'apprête à reprendre son bâton de pèlerin ce dimanche, direction Ajaccio en Corse, un nouveau rivage méditerranéen qui pour la première fois accueillera un successeur de Pierre à l'avant-veille de son 88e anniversaire, François vient clôturer un colloque sur la religiosité populaire telle qu'elle est vécue dans le sud de l'Europe. Venu de l'autre bout du monde, le pape argentin est lui-même profondément imprégné de cette manière de se relationner à Dieu, en dehors des sacrements. Longtemps objet de méfiance, en 2007, dans le sanctuaire marial d'Aparecida au Brésil, les évêques latino-américains en firent une force pour l'Église. Véronique Le Caro est directrice du département de théologie de l'Université catholique de Lima. On l'écoute.
Ce qui apparaît dans Aparecida, c'est que l'Église considère que la grande force du catholicisme, c'est la culture, la piété populaire. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de garder des racines, c'est ce qui permet de garder une culture, bon, de faire face aux évangéliques, de faire face à la sécularisation, au consumisme. Mais le cardinal Bergoglio mentionne la nécessité de purification. Il y a toujours cette idée qu'il peut y avoir des dérapages. Et effectivement, les criminels, ils ont le Christ ou la Vierge tatoué dans leur dos parce qu'ils pensent que personne ne va oser tirer sur le Christ ou la Vierge.
Et sur ce travail de purification, justement, est-ce que vous avez vu François l'entreprendre depuis le début de son pontificat? Et si oui, comment?
Par exemple, le pape François était très courageux quand il a parlé des mafias en Italie. Hein. Mais il disait c'est pas possible qu'avec de l'argent gagné sur les drogues, on puisse participer dans des processions, on mette l'argent dans le religieux. C'est un blanchiment de l'argent et de l'âme. C'est une manière de purification.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Plus tôt dans la journée, le pape François a publié son message pour la Journée mondiale de la paix, célébrée le 1er janvier. Un message dans lequel le Saint-Père se penche sur le thème du prochain jubilé de l'espérance et réitère son appel pressant à la remise des dettes. Nous rappelons que nous sommes tous des débiteurs envers Dieu et envers les uns les autres. Retour sur les grandes lignes de ce message avec Augustine Asta.
En cette veille d'année jubilaire, le pape François invoque à nouveau la paix. Dans le village global interconnecté qu'est le monde aujourd'hui, il est nécessaire, poursuit le souverain pontife, d'écouter le cri des pauvres et de l'humanité menacée. Car, précise-t-il, personne ne vient au monde pour être opprimé, puisque nous naissons pour être libres selon la volonté du Seigneur, affirme le pape. François dénonce donc les inégalités de toutes sortes qui affligent la planète, notamment le traitement inhumain infligé aux migrants, la dégradation de l'environnement, la confusion engendrée par la désinformation, le refus de tout dialogue et le financement de l'industrie militaire. Autant de facteurs, dit le pape, qui constituent une menace réelle pour l'existence de l'ensemble de l'humanité. Pour donc remettre les peuples sur le chemin de l'espérance, François suggère 3 actions concrètes. Trouver des formes de remise de la dette extérieure en reconnaissant la dette écologique entre le Nord et le Sud. Abolir la peine de mort dans toutes les nations, et enfin allouer les fonds non pas pour le financement des armes, mais afin de lutter contre la faim dans le monde.
Augustine Asta. Toujours au Vatican, le souverain pontife a reçu dans la matinée le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Les discussions ont porté sur la contribution de l'Église catholique à la société palestinienne et sur la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. François a également condamné toute forme de terrorisme et réitéré son appel pour une solution à deux États en veillant, je cite, à ce que Jérusalem, protégée par un statut spécial, puisse être un lieu de rencontre et d'amitié entre les trois grandes religions monothéistes. Le Hamas s'est félicité ce jeudi du vote de l'Assemblée générale de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza. Un appel qui reste symbolique car il a été rejeté par Israël et les États-Unis. Sur le terrain, l'armée israélienne continue ses frappes. Ce matin, 12 agents chargés de sécuriser des camions d'aide humanitaire ont été tués aux abords de Rafah et de Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne à Jérusalem. Les précisions de Valérie Ferron.
Ces agents de sécurité ont été tués lors de frappes israéliennes dans les villes du sud de Rafah et de Khan Younes, où un convoi de 80 camions était en route vers les centres de distribution. Ces agents sont en fait des civils palestiniens regroupés dans les comités populaires de protection de l'aide humanitaire. Depuis le début de sa guerre totale contre les Palestiniens de la bande de Gaza, Israël a systématiquement pris pour cible les forces de police, les travailleurs humanitaires et toute autre organisation de la société civile tentant de maintenir l'ordre public et de coordonner avec les Nations Unies l'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire. La puissance occupante a parallèlement laissé agir les gangs armés qui se livrent au pillage de ces camions d'aide. Cette situation vise à créer un chaos social total et accentuer la famine en cours qu'Israël est accusé par les rapporteurs des Nations Unies et les grandes organisations des droits de l'homme d'utiliser comme arme de guerre.
Valérie Ferron à Jérusalem. Des frappes aériennes israéliennes ont aussi visé les alentours de Damas en Syrie, capitale désormais sous le contrôle des rebelles syriens. Selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite en Jordanie ce jeudi, ces frappes visent à empêcher que les équipements militaires ne tombent entre de mauvaises mains, à savoir des mains terroristes. Autre front au cœur de l'actualité, celui en Ukraine. Le chef de l'OTAN appelle l'Europe à passer à un état d'esprit de temps de guerre et à dépenser beaucoup plus pour sa défense. Déclaration au ton grave alors que les forces de Kiev perdent du terrain face à la Russie. Dans ce contexte, la France et la Pologne se sont montrées unies ce jeudi. Le président Emmanuel Macron était à Varsovie ce matin pour rencontrer le premier ministre polonais Donald Tusk, quelques jours après s'être entretenu avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame à Paris. Les précisions d'Adrien Sarlat à Varsovie.
C'est une démonstration de cohésion que les dirigeants français et polonais ont donné à voir ce matin. Donald Tusk et Emmanuel Macron ont tenu à rappeler le rôle de l'Europe dans une possible paix ukrainienne. Une paix juste, selon les termes du dirigeant polonais, qui devra être faite par et pour les Ukrainiens.
Si vous me le permettez, cher ami, je veux profiter de cette occasion pour couper court aux spéculations sur une éventuelle présence militaire d'un quelconque pays étranger en Ukraine après la signature de la paix.
Mais Emmanuel Macron l'a martelé, cette paix ne sera possible que si l'Europe prend en charge sa propre sécurité. Une conviction renforcée par les déclarations du président élu Donald Trump, qui envisage de retirer les États-Unis de l'alliance transatlantique.
Les Européens doivent évidemment renforcer encore leur investissement en la matière, mais aussi investir pour développer une base industrielle européenne de défense et réduire nos dépendances stratégiques. Et je sais combien la grande nation de défense qui est la vôtre partage cette volonté.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Pologne montre déjà la voie à ses alliés européens en consacrant chaque année plus de 4% de son PIB à ses dépenses militaires. La France et la Pologne devraient signer un nouveau traité de coopération à Nancy en mars prochain.
Adrien Sarlat, Varsovie, pour Radio Vatican.
Et puis une bonne nouvelle des États-Unis, le président américain Joe Biden, qui s'apprête à passer la main à Donald Trump le 20 janvier, a décidé de commuer la peine de mort de 1500 détenus. C'était notamment l'une des demandes de l'Église catholique américaine qui avait enjoint les catholiques du pays à écrire au président démocrate pour lui demander de gracier des condamnés. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. Un site internet à vous conseiller d'ici demain 8h30, www.vaticannews.va. Belle soirée à toutes et à tous.